Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Au nom de l'état de droit, le gouvernement évacue la ZAD de Bure dans la Meuse, un site qui pourrait accueillir un centre d'enfouissement de déchets nucléaires. Opération musclée qui a donné lieu à des affrontements. Les écologistes dénoncent une violence disproportionnée. Nous ferons le point avec Véronique Robérotte. Il n'y aura jamais de bœuf aux hormones en France. Emmanuel Macron a tenté de rassurer les agriculteurs en recevant à l'Élysée un millier de jeunes exploitants. Les explications de Catherine Pétillon dans ce journal. La cour d'appel de Paris examine en ce moment la demande de mise en liberté de Tariq Ramadan, mis en examen et incarcéré pour viol. L'islamologue controversé bénéficie d'une intense campagne de soutien sur les réseaux sociaux. Nous verrons cela avec Antoine Maretz. En Syrie, déjà plus de 400 morts dans les bombardements du régime Assad sur la Ghouta orientale. Le Conseil de sécurité de l'ONU discute ce soir d'un projet de cessez-le-feu. Les précisions de Nabila Hamel. Le dossier de ce journal consacré aux élections législatives en Italie le 4 mars prochain. Le sentiment anti-européen gagne du terrain chez les électeurs italiens. Dossier préparé par Mathilde Imberti, notre correspondante à Rome. Le gouvernement a donc choisi la manière forte pour évacuer les opposants au projet Cigéo d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. 500 gendarmes sont intervenus ce matin pour déloger ceux qui occupaient le bois Le Jus, un site de 221 hectares situé à proximité de la commune. C'est là que les opposants avaient commencé à installer une ZAD, une zone à défendre, tout comme à Notre-Dame-des-Landes. Véronique Robérotte, bonsoir.
Bonsoir.
Cette évacuation a donné lieu à des affrontements et à plusieurs interpellations. Elle intervient juste avant la visite sur place du secrétaire d'État à l'écologie, Sébastien Lecornu.
Sept personnes placées en garde à vue pour flagrant délit de violence suite à l'évacuation donc du bois Le Jus et celle parallèlement des occupants de la maison de la Résistance située au centre du village de Bure, une maison occupée depuis de longues années par des opposants donc au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à la poubelle nucléaire de Bure, comme ils l'appellent. 500 gendarmes sont intervenus au petit matin au bois Le Jus où se trouvaient une quinzaine de personnes. L'évacuation a duré plusieurs heures, certains occupants s'étant réfugiés dans des arbres. Des opérations de déblaiement sont en cours, encore en ce moment, au bulldozer. Et puis en début d'après-midi, le secrétaire d'État au ministère de l'écologie, Sébastien Lecornu, dont une visite à Bure était prévue depuis plusieurs jours, justifiait cette intervention des gendarmes.
Le gouvernement applique une décision de justice, une ordonnance d'expulsion, pour mettre fin à l'occupation du bois Le Jus par des occupants illégaux, et ce pour permettre à l'ANDRA de se conformer à ses obligations légales. Les occupants illégaux du bois Joluc appartiennent en partie à la mouvance d'extrême-gauche anarchiste. Ils se sont distingués à plusieurs reprises par leur grande violence. Tout est fait pour empêcher la constitution d'une ZAD, c'est-à-dire de construction en dur. Et je le dis ici devant vous très clairement que l'État reviendra autant de fois qu'il sera nécessaire pour cela.
Le bois Le Jus fait quand même l'objet encore de 4 recours juridiques. Interrogé sur cette expulsion à l'Assemblée nationale cet après-midi, Nicolas Hulot semblait un peu gêné aux entournures, le ministre de l'écologie.
J'aurais préféré ne jamais avoir à traiter ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à cette situation-là, avec ces déchets ultimes dont personne ne veut, ici, en France et ailleurs. On n'a pas brûlé les étapes à Bure, et d'abord, rien n'est définitif et rien n'est acté. Pour l'instant, il y a un laboratoire qui cherche. Je considère effectivement que nous sommes maintenant à l'heure de vérité sur la filière du nucléaire. On a ces déchets, on aurait dû s'en préoccuper plus tôt parce qu'on savait effectivement que ça posait un problème philosophique qui est considérable et qui dépasse largement nos petites préoccupations aux uns aux autres. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les enfouit de manière irréversible pour des centaines de milliers d'années? C'est pas la conception que je me fais d'une civilisation, mais je ne peux pas faire disparaître ces déchets comme par enchantement. Donc on va regarder là aussi la moins mauvaise solution. Aucune solution n'a été acté jusqu'à présent.
Les opposants au projet ont appelé à manifester à partir de maintenant, là, devant les préfectures un peu partout en France. Les associations aussi d'opposition à Bure avaient été conviées à rencontrer demain le secrétaire d'État au ministère d'écologie. Ils ont décidé bien de boycotter la réunion. Les forces de l'ordre devraient rester sur place plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour éviter une nouvelle occupation.
Véronique Robérotte, merci. L'évacuation du site de Bure divise ce qu'il reste de la famille socialiste. Sur France Info, Benoît Hamon dénonce le recours à la force plutôt qu'au dialogue pour l'ancien candidat PS à l'Élysée. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, fait à Bure ce qu'il n'a pas pu faire à Notre-Dame-des-Landes. En revanche, Luc Carvounas, candidat au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste, se félicite de la fermeté du gouvernement. « Moi, je suis pour que les décisions de justice soient appliquées et applicables », a déclaré Luc Carvounas France sur LCP. Toujours au chapitre nucléaire, vers un nouveau contretemps pour l'EPR de Flamanville. L'autorité de sûreté nucléaire évoque une anomalie notable dans les soudures du circuit secondaire du réacteur. L'EPR de Flamanville doit entrer en service à la fin de l'année ou au début 2019. Une mise en service qui conditionne la fermeture de la centrale de Fessenheim en Alsace. Emmanuel Macron n'a pour l'instant pas commenté l'intervention des forces de l'ordre à Bure. Le président est dans une séquence agricole à 2 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Il a reçu aujourd'hui à l'Élysée près d'un millier de jeunes exploitants. Emmanuel Macron qui veut rassurer ce qu'il appelle la génération Y de l'agriculture française. Catherine Pétillon, bonsoir.
Bonsoir.
Alors que faut-il retenir de l'adresse du chef de l'État aux jeunes agriculteurs?
Alors pas de grande nouveauté dans le discours d'aujourd'hui. L'objectif de cette réception à l'Élysée était surtout de se montrer à l'écoute et rassurant vis-à-vis des agriculteurs, alors que samedi, Emmanuel Macron sera dans les allées du Salon de l'agriculture. Au cours d'un discours de près d'une heure, le président de la République est revenu sur les accords de libre-échange et en particulier les discussions sur le Mercosur, contre lesquelles la FNSEA et le syndicat des jeunes agriculteurs manifestaient encore hier. Ces derniers s'inquiètent de l'arrivée sur le marché européen d'énormes quantités de viande sud-américaine produites sans les mêmes normes ni standards. Emmanuel Macron, lui, n'a pas hésité à affirmer qu'il n'y aurait jamais, je cite, de bœuf aux hormones en France et qu'il s'agissait de biens contrôlés aux frontières. La traçabilité et les normes environnementales et sociales restent à savoir avec quels moyens. Autre sujet, l'accaparement des terres agricoles. Après l'acquisition récente par un investisseur chinois de plusieurs milliers d'hectares de terres à blé, Emmanuel Macron a annoncé des verrous réglementaires sans plus de précision. Rappelons que le sujet a déjà fait l'objet d'une loi en mars dernier. Enfin, adresse aux nouvelles générations l'annonce d'un dispositif de prêt garanti pour les jeunes agriculteurs à hauteur d'1 milliard d'euros. Emmanuel Macron a aussi donné les grandes lignes de répartition des 5 milliards d'euros prévus pour le secteur, notamment en direction du bio, et promis des annonces concrètes au moment du salon.
Catherine Pétillon, merci. Emmanuel Macron qui doit aussi faire face à l'inquiétude des cheminots de la SNCF. Il y a bien sûr le rapport Spinetta qui propose de mettre un terme à leur statut et qui remet en cause la rentabilité de certaines petites lignes. Le gouvernement veut aller vite dans cette réforme. Il envisage de recourir aux ordonnances pour l'appliquer. Isabelle Chailloux, la méthode aurait plusieurs avantages pour le pouvoir, mais ce serait un casus belli pour les syndicats.
Officiellement, rien n'est encore arbitré. C'est lundi que le Premier ministre dira avec quel calendrier et quelle méthode il compte engager cette réforme ultra sensible de la SNCF. Mais un des membres du gouvernement, Christophe Castaner, explique que sur ce sujet, rien n'est exclu, qu'il ne faut pas avoir peur des ordonnances et qu'il faut aller vite. Aller vite, c'est en effet un des principaux avantages qu'offrirait un recours aux ordonnances pour le gouvernement, en évitant un passage par la loi et un long débat parlementaire. Pour un bon connaisseur du dossier, ce serait une stratégie habile qui éviterait qu'un mouvement de grève à la SNCF ne se cristallise, une façon donc de couper l'herbe sous le pied des syndicats de cheminots et une répétition de la méthode employé pour la réforme du Code du travail. Et c'est l'autre argument que le gouvernement pourrait mettre en avant, traiter de la même façon les salariés du privé et les agents du public. La question du recours éventuel aux ordonnances va de toute façon animer la réunion des syndicats de la SNCF qui était déjà prévue aujourd'hui. La CGT Cheminot prévient d'ores et déjà qu'un recours aux ordonnances ne ferait que durcir l'opposition à la réforme.
Isabelle Chailloux, merci. Effectivement, l'intersyndicale de la SNCF se réunit en ce moment pour riposter au gouvernement. La CFDT Cheminot, quatrième syndicat de l'entreprise, veut déposer un préavis de grève reconductible. Venons-en maintenant à l'affaire Tariq Ramadan. La cour d'appel de Paris doit se prononcer d'ici ce soir sur le maintien en détention de l'islamologue controversé Tariq Ramadan, mis en examen pour viol après les plaintes de 2 anciennes disciples. Ses avocats affirment que son état de santé est incompatible avec la détention. Antoine Marette, bonsoir.
Bonsoir.
Une première expertise médicale a estimé que Tariq Ramadan pouvait rester en prison.
Effectivement, l'expertise médicale judiciaire a contesté des certificats médicaux fournis par Tariq Ramadan, des certificats établis à Londres et à Genève, faisant état d'une sclérose en plaques et d'une neuropathie. Et c'est sur la base de cette contestation que les juges doivent aujourd'hui rendre leur décision de maintenir ou non Tariq Ramadan en détention provisoire. Sauf que l'islamologue mis en examen pour viol a refusé cet après-midi d'être extrait de sa prison de Fleury-Mérogis pour comparaître devant la cour d'appel. On ne connaît pas pour le moment les raisons précises de ce refus.
Antoine, l'islamologue bénéficie aujourd'hui d'une vaste campagne de de soutien très visible sur les réseaux sociaux.
Effectivement, une campagne qui s'est intensifiée ces derniers jours. Il y a d'abord eu cette page Facebook Free Tariq Ramadan Campaign, suivie par plus de 45 000 internautes. Elle a diffusé notamment une vidéo la semaine dernière de la femme de Tariq Ramadan qui estime que son mari est victime, je cite, d'un lynchage médiatique et d'accusations mensongères. Free Tariq Ramadan, c'est également un compte Twitter avec près de 7 000 abonnés. Et puis hier, à la veille de la décision de la Cour d'appel, il y a eu également cette tribune publiée dans Mediapart qui appelle à, je cite, « une justice impartiale et égalitaire ». Elle conteste l'expertise médicale qui a conclu que Tariq Ramadan pouvait rester en prison. Elle fustige une justice, je cite, « à géométrie variable » et demande sa libération immédiate au regard de son état de santé alarmant. Parmi les signataires, on trouve des personnalités aussi diverses que l'éditeur Éric Hazan, l'écrivain et cofondateur d'Act Up Didier Lestrade ou encore la porte-parole des indigènes de la République, Ouria Boutelja. Hier également, ce sont les recteurs des mosquées de Lyon et de Villeurbanne qui ont réclamé dans un communiqué commun la libération immédiate de Tariq Ramadan. Ils estiment l'islamologue suisse victime, je cite, d'un lynchage médiatico-politique où les convictions personnelles et les rancœurs prennent souvent le pas sur la sacro-sainte présomption d'innocence. Alors ces pressions sur la justice vont-elles porter leurs fruits ? Réponse ce soir avec la décision de la Cour d'appel.
Antoine Marette, merci. En Syrie, le régime Assad a repris aujourd'hui ses bombardements sur la Ghouta orientale, ce fief rebelle situé aux portes de Damas. Depuis la semaine dernière, plus de 400 civils ont trouvé la mort dans ces frappes, selon un bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dénonce un enfer sur terre. Il appelle à faire cesser le massacre. Nabila Hamel, bonsoir.
Bonsoir.
Et justement, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir pour examiner un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu de 30 jours dans la Ghouta.
Oui, ce sont les ONG qui sont montées les premières au créneau. Les images de civils victimes de bombardements aériens du régime syrien ont fait le tour du monde. Or, ce régime martèle qu'il prépare en plus une opération terrestre imminente et de grande envergure. Comment être efficace sans condamner ceux qui sont à l'origine de cette situation ? Si l'exercice diplomatique a déjà montré ses limites, il est difficile pour les chancelleries de rester silencieuses face à l'escalade qui a fait plus de 380 morts en 4 jours. La question sera donc traitée par le biais humanitaire au Conseil de sécurité de l'ONU. Un texte soumis par le Koweït et la Suède réclame, vous le disiez, un cessez-le-feu de 30 jours. La Russie, détentrice du droit de veto au sein de l'instance exécutive de l'ONU et grande alliée de Damas, se dit prête à examiner ce texte sous condition. Sergueï Lavrov expliquait cet après-midi que la trêve ne devrait pas concerner l'organisation islamique, les miliciens de l'ancien front al-Nosra et ses alliés. Or, la Ghouta est sous le contrôle de groupes islamistes. Moscou affirme leur avoir proposé d'évacuer la région, ce qu'ils auraient refusé. Le Kremlin soutient Damas dans les bombardements actuels à la Ghouta, qui viseraient, selon les deux alliés, les groupes armés djihadistes. Faux, disent les médecins et secouristes sur place. Les raids ne visent que des civils, dont de nombreux enfants. Reste à savoir donc si l'on obtiendra dès ce soir une trêve de 30 jours et un texte qui permettrait un accès humanitaire dans la Ghouta orientale.
Nabila Hamel, merci. La guerre en Syrie a déjà fait plus de 340 000 morts depuis le début du conflit en 2011. Au Nigeria, les autorités redoutent un nouveau kidnapping de masse à l'image du drame des lycéennes de Chibok, 276 adolescentes enlevées par Boko Haram en 2014. C'est à la secte islamiste muée en groupe armé qu'est attribuée une autre attaque, toujours au nord-est du pays. Lundi dernier, des hommes en armes ont pris pour cible un internat de jeunes filles à Dapchi. Aujourd'hui, 111 élèves manquent à l'appel. Mathieu Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Le gouvernement nigérian a dépêché sur place une délégation menée par le ministre de la Défense.
Et dès hier soir, au sortir de la réunion de son cabinet, le président s'est pour une fois affiché en chef de guerre et ex abrupto a envoyé l'armée dans les environs de Dapchi. Première difficulté, les registres des établissements sont rarement à jour. Alors combien de jeunes filles ont-elles pris la fuite ? Cet après-midi, premiers échos très ambigus, plusieurs lycéennes auraient été secourues. Prudence, prudence au pluriel, nul n'est à même d'avancer des chiffres crédibles. Mohamed Bouhari est à ce point affaibli qu'il ne peut attendre d'avoir des certitudes. Yann Saint-Pierre, consultant en contre-terrorisme, fondateur du Moscone, épaule et les institutions et les ONG.
Le fait fait que la prise d'Amboiry soit pas visible, que plusieurs de ses promesses de campagne n'aient pas été tenues, d'autant plus que les annonces quasi régulières de la défaite de Boko Haram, qui sont toujours invalidées. Maintenant, on se retrouve dans une situation où le gouvernement, déjà très affaibli, cherche à éviter le scandale politique qui pourrait, à un an des élections, être très problématique.
Il y a 4 ans, le drame de Chibok avait coûté sa réélection à Goodluck Jonathan. L'autre fragilité tient au fait que la justice nigériane a ouvert en octobre dernier des procès de masse de membres présumés de Boko Haram avec des centaines de remises en liberté faute de preuves. Que dire par ailleurs de l'appareil sécuritaire, Yann Saint-Pierre?
C'est un appareil sécuritaire qui souffre énormément. Il manque de personnel, manque de matériel, manque de coordination. Et donc, ça se trouve être la tempête parfaite. Une organisation terroriste qui est très puissante, qui a une portée assez importante face à un gouvernement qui est en déroute de par sa propre faute, parce qu'il manque effectivement cette capacité de s'unir et d'offrir un front commun face à Boko Haram, ce qui faciliterait énormément la tâche.
Et l'insurrection dans le nord du Nigeria, du nord-est du Nigeria, depuis 2009, causait la mort de 20 000 personnes, l'on dénombre également 2,6 millions de déplacés.
Mathieu Laurent, merci. Le dossier du jour nous emmène ce soir en Italie. Le 4 mars prochain, les Italiens votent pour renouveler leur assemblée. Des élections législatives particulièrement indécises, avec selon les derniers sondages 3 grands blocs. L'alliance centre-droit populiste autour de Silvio Berlusconi et Matteo Salvini, crédité d'au moins 35% des intentions de vote. Le mouvement 5 étoiles, formation anti-caste ni droite ni gauche, qui frôle la barre des 30%. Et enfin, l'alliance de centre-gauche autour du Parti démocrate, aujourd'hui au pouvoir à Rome, qui tourne autour des 25%. Les deux premiers blocs semblent aujourd'hui gagnés par l'euroscepticisme, car de nombreux Italiens estiment que l'Europe les a abandonnés face à la crise migratoire et aux difficultés économiques. Dossier préparé par notre correspondante à Rome, Mathilde Imberti.
Les études se suivent et se ressemblent. Les Italiens des plus europhiles au balbutiement de la communauté européenne sont devenus aujourd'hui les plus eurosceptiques. Une défiance qui se cristallise sur les questions économiques et la monnaie, détaille le politologue Marc Lazare, professeur à Sciences Po et à l'Université Louis de Rome.
Près de 45% simplement des Italiens disent qu'ils veulent rester dans la zone euro, ce qui dans une enquête comparée montre que de tous les pays membres de la zone euro, c'est l'Italie qui a le plus faible enthousiasme pour l'euro. C'est un pays qui est en récession, qui est en train de sortir de cette récession. C'est un pays où, avec encore un fort taux de chômage, c'est un pays où les inégalités se sont creusées. Et par conséquent, l'Europe, qui était associée à la prospérité, à la protection sociale, aujourd'hui est considérée avant tout comme une Europe de la rigueur, de l'austérité et en plus une Europe qui apparaît lointaine et non démocratique.
Deux formations deviennent donc très attirantes pour les Italiens les plus méfiants envers l'Europe telle qu'elle se dessine. La Ligue de Matteo Salvini, alliée de Marine Le Pen au Parlement européen, et le Mouvement 5 étoiles, qui à Strasbourg siège avec le groupe de Nigel Farage, très eurosceptique. Mouvement 5 étoiles, qui lui a adouci ces derniers jours ses propos. Luigi Di Maio, le candidat président du Conseil pour les 5 étoiles.
Le paysage actuel européen laisse de la place en dehors de l'axe intouchable franco-allemand. L'Italie peut peser davantage dans les discussions. Je pense donc que ce n'est plus le moment pour l'Italie de sortir de l'euro. C'est le moment d'aller négocier en tant que premier pays exportateur en Europe, deuxième force manufacturière d'Europe. L'Italie, qui donne 20 milliards d'euros au budget européen chaque année, doit commencer à se faire entendre.
Au fil des semaines de campagne, la perspective d'un Italexit, sorti de l'Italie, de l'Europe, s'est éloignée. Elle est aujourd'hui totalement improbable, selon Emma Bonino, ex-commissaire européen, ex-ministre des Affaires étrangères de l'Italie, qui mène la liste Plus d'Europe.
À mon avis, après la campagne électorale, quoi qu'il se passe, tout ça, c'est impensable. Et je pense même à Di Maio et aux autres qui profitent de ce slogan. Vous pouvez le prendre de tous les points de vue. Et vous pouvez aussi faire toutes les critiques au projet européen actuel, où il s'est planté. On n'a pas une gouvernance efficace d'une monnaie commune. Vous n'avez pas une politique fiscale ou sociale qui soutienne une monnaie commune, etc. etc. Donc, c'est ça qu'il faut reprendre.
Si un Italexit est peu probable, néanmoins les voisins de l'Italie observent avec une grande attention les élections. La France en premier lieu. Emmanuel Macron, le 11 janvier dernier, faisait l'éloge du président du Conseil actuel, Paolo Gentiloni, du Parti démocrate.
Je considère que l'Europe a eu beaucoup de chance d'avoir Paolo Gentiloni ces derniers mois là où il était. Et que je peux vous dire une chose, c'est que l'Europe est bonne pour l'Italie. Et qu'une Italie qui croit dans l'Europe est bonne pour l'Europe. Et à ce titre, je souhaite que nous puissions continuer le travail important et ambitieux que nous avons commencé.
Paolo Gentiloni qui pourrait rester au pouvoir si les élections du 4 mars, comme le laissent entrevoir les derniers sondages, ne dessinaient pas de majorité franche au Parlement.
Mathilde Imberti, correspondante de Radio France en Italie. Une école sans armes attire les méchants. Sur Twitter, Donald Trump persiste et signe dans sa volonté d'armer certains enseignants pour lutter contre les tueries de masse dans les écoles américaines. Le président américain avait fait cette proposition hier soir en recevant à la Maison Blanche des rescapés de la fusillade du lycée de Parkland en Floride. La météo demain, le froid gagne du terrain, temps ensoleillé sur la moitié nord, plus agité au sud avec de la neige sur les reliefs. Les températures minimales des gelées généralisées jusqu'à moins 5 degrés en plaine. Les maximales iront de 1 à 12 degrés du nord au sud jusqu'à 14 degrés en Corse. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.